rozumią tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Cela fait un peu plus de 100 jours que les électeurs britanniques ont par 52% choisi de quitter l'Union européenne. Témoin d'une impréparation totale à pareille secousse, la première ministre Theresa May vient seulement d'annoncer la semaine dernière lors du congrès du Parti conservateur qu'elle activerait l'article 50 du traité de Lisbonne avant la fin du mois de mars 2017, soit 9 mois après le référendum du 23 juin. Les négociations de sortie de l'Union pourront alors débuter, elles devront se conclure 2 ans plus tard, en mars 2019. Quelles seront alors les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Difficile de le prévoir, même si Theresa May a montré une volonté de voir, je la cite, le retour du Royaume-Uni vers le statut d'État souverain et indépendant. Theresa May semble donc privilégier l'option du hard Brexit, c'est-à-dire une coupure franche et nette avec l'Union européenne. Hard ou soft, le Brexit aura de lourdes conséquences sur le plan économique, voient tous les experts, même si elles sont pour le moment limitées pour l'heure. Seule la livre sterling a réagi, la monnaie britannique a perdu 16% de sa valeur. Mais attention, il ne faut pas confondre l'annonce du Brexit et les conséquences de sa mise en place. Pour l'Union européenne, le Brexit sera difficile à gérer. Il lui faudra à la fois limiter l'impact économique, mais en même temps faire payer aux Britanniques le prix de leur départ, afin notamment d'éviter tout risque de contagion. Mais à contrario, le Brexit ne pourrait-il être une chance pour l'Europe, l'occasion d'une refonte de l'Union, d'un nouveau départ, le moment de réorienter la politique européenne dans le sens d'une plus grande démocratisation, d'une rupture avec l'austérité, de la mise en place d'une politique fiscale et de lutter contre le dumping social. Bref, puisque les Britanniques ont souvent été accusés d'être un frein à la construction européenne, leur départ est-il une chance pour l'Europe? Je vous présente les invités qui ont bien voulu nous rejoindre. Bonjour Christian Lequen.
Bonjour Daniel Desesquelles.
Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, un grand connaisseur des questions européennes. Jean-Sébastien Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondant à Bruxelles pour le site d'information très européen contexte.com. Merci d'être en ligne de Bruxelles. Et puis à Londres, nous rejoignons notre correspondante Muriel Delcroix. Bonjour Muriel.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
Some politicians, democratically elected.
Certains politiciens élus démocratiquement disent que le référendum n'est pas valide, que nous avons besoin de voter une deuxième fois. D'autres disent qu'ils n'aiment pas les résultats et maintenant défient de partir de l'Union européenne, mais par les tribunaux. Je sais aussi que, ayant voté pour le Brexit, le public voudra très vite voir le Royaume-Uni quitter formellement l'Union européenne. Donc je tiens à être absolument clair. Il n'y aura pas de délai superflu pour invoquer l'article 50. Nous l'invoquerons dès que nous serons prêts, et nous le serons bientôt. Nous invoquerons l'article 50 au plus tard, fin mars de l'année prochaine.
Theresa May à Birmingham, à l'occasion du congrès du Parti conservateur, a donc mis fin à un interminable suspense. La date de l'activation de l'article 50 du traité de Lisbonne, autrement dit la date à laquelle les négociations vont commencer, ce sera donc au plus tard fin 2019. Muriel Delcroix, vous étiez à Birmingham à l'occasion de ce congrès du Parti conservateur. Theresa May s'est exprimée devant un congrès plutôt inquiet parce qu'il y a évidemment beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir britannique, ou un congrès plutôt satisfait d'avoir pris une pareille décision?
Non, en fait, on sentait quand même vraiment, lors de ce qui est quand même la grand-messe annuelle des Tories, une ambiance d'euphorie et puis aussi de défiance vis-à-vis de l'Union européenne. Les militants conservateurs qui sont dans l'ensemble pro-Brexit attendaient tous de leur gouvernement et de leur nouvelle dirigeante des paroles fortes et rassurantes. Ce que Theresa May a fait, avec zèle d'ailleurs, lors de ces deux discours. Premièrement, elle a fait taire les impatients en annonçant enfin qu'elle activerait la clause de retrait, l'article 50 du traité de Lisbonne, avant la fin du mois de mars. Et puis, deuxièmement, qu'elle abrogerait aussi l'acte d'adhésion à l'Union européenne pour que le Royaume-Uni redevienne, comme elle le dit, souverain et indépendant, gouverné en fait par des lois britanniques et non plus européennes. Elle a aussi parlé beaucoup de préférences nationales, de contrôle renforcé aux frontières du pays, signalant qu'elle se dirigeait comme vous l'avez dit, vers un Brexit dur. Et ses discours ont été prononcés sur un ton très ferme. Et ça lui a valu d'être ovationné par des militants debout, tout comme d'ailleurs ses ministres qu'on appelle les trois Brexiteurs, David Davis, Boris Johnson notamment et Liam Fox. Alors que par exemple, Michael Essentine, fervent europhile, n'a eu le droit, lui, qu'à des applaudissements polis. En fait, moi j'ai eu l'impression pendant ce congrès que le sentiment général, c'était que le Brexit était ce qui était arrivé de mieux au pays depuis des décennies, et que oui, il y avait certains ministres, notamment celui de l'économie, Philippe Hammond, qui prévenait qu'il y aurait des turbulences, mais que dans l'ensemble, tout irait bien, que le gouvernement ferait tout pour obtenir un accord de Brexit personnalisé et avantageux pour le pays, bien sûr.
Alors, Muriel, on a l'impression que l'ensemble des Britanniques, en tout cas ceux qui ont voté pour le Brexit, vivent dans une espèce d'euphorie lyrique. Et j'ai l'impression que Boris Johnson est un petit peu le porte-parole de cette euphorie lyrique. Lors du congrès du Parti conservateur, on l'a entendu rappeler les fastes, les grandes heures de l'Empire britannique. Il s'est quand même passé un certain nombre de petites choses depuis que l'Empire britannique était au fait de sa gloire.
Oui, effectivement. Alors, il y a quand même, malgré tout, là, on était au cœur du Parti conservateur lors du congrès. Ça dépend de quel côté vous vous placez en Grande-Bretagne. Les Britanniques qui ont voté pour sortir de l'Union européenne, oui, ils sont toujours dans l'euphorie. Ils voient, eux, un avenir radieux pour le Royaume-Uni qui est enfin souverain. Ils se disent d'ailleurs confortés par les indicateurs économiques depuis le référendum qui sont loin du cataclysme qu'on leur avait prédit. Dans l'ensemble, l'économie britannique résiste. Et puis, ils expliquent les épisodes de chute répétés de la livre en disant qu'en fait, c'est une bonne chose, ça va booster les exportations. Mais évidemment, c'est une vision optimiste qui n'est pas partagée par ceux qui voulaient, eux, rester dans l'Union européenne, à commencer par la majorité du secteur économique et financier. Eux, ils restent très inquiets. Il faut remarquer que si les effets à long terme de ce vote ne sont pas encore sentis, c'est tout simplement parce que le Brexit n'a pas encore eu lieu. Et ils voient, eux, des signes avant-coureurs inquiétants. Il y a une enquête qui a été publiée en début de semaine par la Chambre de commerce britannique qui montre un ralentissement marqué du secteur des services après le référendum. Donc même si l'activité a mieux résisté que prévu depuis le vote, les intentions d'investir, elles, sont tombées au troisième trimestre, à leur plus bas depuis 4 ans. Et puis aussi, tout récemment, plusieurs constructeurs automobiles, Nissan, Jaguar, Land Rover, ont prévenu qu'ils ne s'engageraient pas dans de nouveaux investissements au Royaume-Uni sans accord avec le gouvernement sur des compensations en cas d'éventuels coûts douaniers liés au Brexit. Et puis, bien entendu, on est inquiet au sein de la City, parce que le secteur financier était majoritairement contre un Brexit.
On va évidemment revenir sur tous ces points que vous avez déjà évoqués, Muriel. D'un mot, Jean-Sébastien Lefebvre, à Bruxelles, l'annonce de la mise en place de l'activation, voilà, de l'article 5 ans, au moins sur ce point-là, ça a été une bonne nouvelle à Bruxelles.
Oui, effectivement, parce que Bruxelles, en fait, attendait cette annonce. Il faut se rappeler qu'avant le référendum, Jean-Claude Juncker donnait jusqu'à octobre aux Britanniques pour activer l'article 50. Très rapidement, on a vu que ça serait pas possible parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit au début, les Britanniques n'étaient absolument pas prêts. Et donc, du coup, les chefs d'État et de gouvernement, lors du sommet, le premier sommet à 27 à Bruxelles, ont accepté l'idée qu'il faudrait attendre un petit peu plus. Et du coup, mars à Bruxelles est apparu comme une sorte de compromis.
Un moindre mal,
voilà, le temps que les Britanniques s'organisent, et ça laisse aussi en fait le temps aux Européens de s'organiser aussi, de savoir qu'est-ce que eux veulent aussi.
Et on va évidemment y revenir. À Birmingham, en tout cas, Theresa May a aussi défini les grandes lignes de ce que devrait être le Brexit, le retour du Royaume-Uni vers le statut d'État souverain et indépendant, c'est-à-dire donc une coupure franche et nette avec l'Union Européenne. On l'écoute.
Il n'y a pas à choisir entre le soft Brexit et le hard Brexit. Que les gens le veuillent ou pas, le pays a voté pour quitter l'Union européenne. Et ça veut dire que nous allons quitter l'Union européenne. Nous allons devenir un pays totalement indépendant et souverain. Un pays qui ne fera plus partie de l'Union politique de l'Europe avec des institutions supranationales, mais qui contrôle les parlements et les tribunaux nationaux. Et cela signifie que nous pourrons à nouveau avoir la liberté de prendre nos propres décisions dans beaucoup de domaines, comme la façon de labelliser nos aliments ou dans notre façon de contrôler l'immigration. Cela ne sera pas fait sur le modèle suisse. Ce sera un accord entre le Royaume-Uni indépendant et souverain et l'Union européenne.
Alors, question à laquelle il nous faut faire peut-être une petite explication de texte entre le hard Brexit et le soft Brexit.
Oui, ben je crois qu'hard Brexit, ça veut dire grosso modo sortir complètement sans renégocier un quelconque statut ad hoc avec l'Union européenne, simplement un accord de libre-échange, comme il en existe un par exemple entre l'Union européenne et le Canada. Soft Brexit, ça voudrait dire au contraire négocier un accord pour conserver les bénéfices du marché intérieur et du point de vue britannique, si possible, sans la libre circulation des personnes.
Alors c'est là toute l'ambiguïté de la négociation d'un point de vue britannique.
Absolument, puisque les quatre libertés ont toujours été considérées...
Il faut les rappeler, quelles sont-elles ces quatre libertés ?
Liberté de circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, ça a toujours été considéré comme quelque chose de non négociable en quelque sorte. Le marché intérieur, c'est l'application de ces quatre libertés.
C'est-à-dire, pour faire clair, si vous voulez vendre des produits en Grande-Bretagne, ou si plutôt si les Anglais veulent vendre des produits sur le marché intérieur européen, il faut qu'ils acceptent en échange et bien que des citoyens européens s'installent, travaillent et puissent vivre au Royaume-Uni.
Tout à fait, ce qui est possible d'ailleurs sans être État membre, puisqu'il existe un accord qui s'appelle l'espace économique européen avec le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande, où les quatre libertés sont appliquées, bien que ces trois États ne soient pas formellement membres de l'Union européenne.
Alors quand on écoute Theresa May, on sent en tout cas une certaine fermeté dans ses propos. Est-ce qu'elle est aussi ferme sur ses intentions, ce qui consiste à vous poser la question, Christian Lecken, quelle est la part du bluff?
Bluff, elle s'adresse aux militants. On est dans un congrès de partis politiques, donc elle dit ce que les militants ont envie d'entendre, parce que dans un congrès de partis politiques, on pense aussi à la prochaine élection. Et il ne faut pas oublier que les conservateurs sont quand même pas trop mal positionnés compte tenu de l'état lamentable du parti travailliste. Moi, je pense que Theresa May, qui semble-t-il n'était pas favorable à la sortie de la Grande-Bretagne, est parfaitement consciente du fait que ça va poser des problèmes au secteur économique et financier britannique, ne serait-ce que parce que 44% des produits aujourd'hui britanniques sont encore commercialisés sur le territoire de l'Union européenne. Pour vous donner un autre chiffre en termes de produit intérieur brut, actuellement l'Union européenne, ça participe grosso modo à 10% du produit intérieur brut britannique, alors que la Grande-Bretagne participe à 3% du produit intérieur brut des autres États de l'Union européenne.
Ce qui évidemment est assez intéressant comme chiffre à retenir. Muriel Delcroix, même question, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement britannique, c'est-à-dire Theresa May, qui en est sa première représentante, c'est vraiment ce qu'elle veut. De la fermeté dans le discours, mais derrière une grande solidité dans l'argumentaire, dans la stratégie à opérer.
En fait, la stratégie, on la connaît pas plus aujourd'hui qu'avant le congrès. Elle a effectivement eu des mots très très forts et très durs, mais elle s'est aussi beaucoup retranchée derrière ses ministres. Et en fait, elle a insisté effectivement sur ce hard Brexit parce que elle a senti que c'est ce que ses militants et le pays avaient envie d'entendre. Et notamment, elle a insisté sur cette importance dont on a beaucoup parlé avant le Brexit de limiter l'immigration. Et donc, elle a laissé ses ministres annoncer des propositions au fort relent nationaliste quand même, qui donnait à chaque fois la priorité aux Britanniques. La fameuse phrase « British jobs for British people », hein, les emplois britanniques pour les travailleurs britanniques, on l'a entendu en force pendant ce congrès. Je vous donne un exemple. Le ministre de la Santé, Jeremy Hunt, a estimé que le NHS, donc les services de santé publique, ne devait plus dépendre des médecins étrangers. Et donc, il a annoncé qu'il voulait former 1500 médecins britanniques de plus par an, à partir de maintenant, c'est-à-dire 25% en plus, pour que ce NHS soit autosuffisant, alors que quand même, jusqu'à présent, ce système ne pourrait absolument pas fonctionner sans les praticiens, les infirmiers ou les aides-soignants étrangers, et qui sont effectivement notamment européens.
Ce Brexit, on le sent bien, a libéré des relents nationalistes et xénophobes qu'on ne soupçonnait pas réellement chez les Britanniques.
Absolument. En fait, on a l'impression pendant la campagne que ça a libéré en fait, ça a libéré totalement la parole dans le pays. Et on a senti ça à la fois, moi quand je suis allée interviewer des gens pendant la campagne sur le Brexit, c'était très très virulent, centré à la fois sur la reprise du contrôle de la destinée du pays, sur la limitation de l'immigration, et c'est une rhétorique dure qui a beaucoup frappé. Et du coup, on a assisté à une recrudescence des agressions xénophobes depuis le résultat du référendum. Il y a eu un pic dans les 4 jours qui ont suivi ce vote, avec une augmentation de près de 60% des agressions un peu partout dans le pays. Et donc, effectivement, cette libération de la parole, ça a donné... On a voté pour sortir, alors maintenant, retournez chez vous. Et ça a notamment visé les immigrants issus aussi bien de l'Europe de l'Est, notamment la communauté polonaise, que le sous-continent indien ou l'Afrique.
Alors on peut rappeler que 900 000 Polonais vivent au Royaume-Uni, ce qui en fait une des premières communautés non britanniques sur le sol de l'île. Le plus dur est à venir tout de même pour les Britanniques à propos de ce Brexit. Là, on en est qu'aux prémices, Christian Le Ken.
Bien sûr, il y aura de longues négociations. Charles Grant, qui est un des bons commentateurs de la politique européenne du Royaume-Uni, a donné un entretien récemment où il estime qu'il y aura 6 négociations différentes qu'il faudra mener d'un point de vue technique. Tout ça prendra énormément de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, et il y aura notamment une difficulté qui est la renégociation de l'ensemble des accords commerciaux, car actuellement, tout ce qui touche au commerce international est de la compétence exclusive de l'Union européenne. C'est-à-dire que, à l'Organisation mondiale du commerce à Genève, ce n'est pas la Grande-Bretagne, la France, la Pologne qui siègent, mais l'Union européenne. Là, ça devra être la Grande-Bretagne à nouveau, donc il faudra renégocier sur le plan bilatéral des accords. Les Sud-Coréens ont fait savoir récemment que s'ils avaient signé avec l'Union européenne, c'est parce que la Grande-Bretagne était dans l'Union européenne, mais que la Grande-Bretagne seule, ça les intéresse moins. Donc ça, c'est déjà
un indicateur
intéressant. Et puis, il n'est pas certain c'est là où, si vous voulez, les partisans du Brexit surestiment ce qu'est aujourd'hui la Grande-Bretagne dans le monde. Il n'est pas certain qu'un État comme la Grande-Bretagne, qui est quand même un État moyen à l'échelle des grandes puissances du monde, réussisse à négocier des droits de douane qui soient aussi favorables que ce que l'Union européenne a négocié auparavant.
Et il y a une formule que j'aime bien, c'est en Europe, il y a deux sortes de pays, les petits et ceux qui ne savent pas qu'ils le sont, et probablement que les Britanniques vont le découvrir à un moment ou à un autre. En tout cas, tout le monde économique, la City, tout à fait consciente de cela. Muriel Delcroix, vous faisiez référence à Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan, qui a bloqué tout investissement dans son usine de Sunderland en attendant d'y voir plus clair. L'impact sur la City, c'est une grande question. Un certain nombre de grands banquiers, de grands financiers britanniques voient le Brexit comme un cauchemar.
Oui, alors certains consultants parlent de 30% des activités de services qui pourraient partir vers l'Union européenne. Effectivement, l'industrie automobile, la déclaration de Carlos Ghosn. En fait, ce que Carlos Ghosn disait, c'est si vous souhaitez que nous fassions de nouveaux investissements, il faudra qu'on règle la question des droits de douane, ou alors il nous faut des compensations. Voilà.
Jean-Sébastien Lefebvre, il y a quelque chose qui est très très important pour les Britanniques, ça s'appelle le passeport financier. C'est quoi ce fameux passeport financier qui intéresse tant la City, en quelques mots?
Alors le passeport financier, c'est ce qui permet à la City d'être en fait la première place financière de la zone euro. C'est même si le Royaume-Uni n'utilise pas l'euro, la City a des droits comme si c'était un peu une bourse de la zone euro. Ce qui fait qu'en fait, si elle quitte les institutions européennes, l'Union européenne, elle le perd ce droit. Et du coup, l'enjeu, c'est de dire, pour certains partisans du Brexit, on veut partir, mais on veut garder ce passeport. Ce à quoi les Européens répondent, ah non, si vous partez, vous avez plus ce droit que vous aviez uniquement parce que vous l'avez négocié dans le cadre des institutions européennes.
Alors évidemment, l'enjeu est grand pour la City. On devine que les négociations vont être longues et difficiles, même si, comme Theresa May semble l'indiquer, la position britannique se veut très forte, très ferme et quelque peu définitive. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières infos. On va se retrouver dans 3 minutes, c'est-à-dire quasiment à tout de suite, et voir quelles vont être les conséquences de ce Brexit pour l'Union européenne. À tout de suite donc.
géopolitique, le
Treff.Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel. Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Bienvenue si vous nous rejoignez. Theresa May, la première ministre britannique, activera l'article 50 du traité de Lisbonne au plus tard fin mars 2017. Conséquence, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sera scellé en mars 2019. Dans la première partie de l'émission, nous avons surtout évoqué les conséquences du Brexit pour le Royaume-Uni. Avec nos invités, nous allons maintenant nous attarder à l'impact du Brexit sur l'Union européenne et nous allons même nous interroger si à la fin de ce processus, le Brexit ne serait pas une chance pour l'Europe. À mes côtés dans le studio 41 de RFI, Christian Lequen, professeur à Sciences Po Paris. En ligne de Bruxelles, Jean-Sébastien Lefebvre, journaliste au site européen Context.com. Et à Londres, Muriel Delcroix, correspondante de RFI au Royaume-Uni. Mais avant de reprendre notre débat, je vous invite à faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour, je suis Judith Sinige.
Bonjour Daniel.
À cette question, le Brexit peut-il être une chance pour l'Europe? Votre attention a été retenue par l'éditorial de Fintan O'Toole dans le Irish Times, qui a sa vision toute personnelle d'un Brexit réussi pour l'Europe.
Oui, en effet, il dit que son argumentation est la suivante. Si on tire les bonnes leçons du Brexit, l'UE n'est pas vouée à l'échec. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour sauver, pour réparer cette union? Il a 6 solutions. Premièrement, les dirigeants européens doivent, selon lui, restaurer la confiance dans l'Union. Il note au passage que cette confiance a disparu dans bien d'autres États membres. C'est pas seulement au Royaume-Uni où il n'y a plus de confiance. Alors, comment la restaurer? D'abord, il faut s'attaquer à ce qu'il appelle l'arrogance de l'élite politique, dont on dit souvent qu'elle est déconnectée de la réalité. Il faut donc que les dirigeants politiques, une fois pour toutes, écoutent la population. Deuxième solution, il faut arrêter de mettre la pression sur la Grèce. Il propose même d'annuler la dette grecque, car de toute façon, le pays ne pourra jamais la rembourser. Troisième solution pour réparer l'UE. Il faut arrêter de croire, dit-il, à une intégration européenne de plus en plus poussée. Il faut se rendre à l'évidence que cela ne marche pas. L'UE ne sera jamais un super-État où les États-nations n'ont plus de voix au chapitre. Et au contraire, ils disent, sont justement les États-nations qui vont prendre plus de pouvoir.
Quatrième
conseil pour sauver l'UE, sortir de la zone euro. Elle marche uniquement pour un petit nombre de pays du nord de l'UE, dit Fintan O'Toole du Irish Times. Il dit ça marche notamment pour l'Allemagne qui exporte beaucoup grâce à l'euro. Mais pour d'autres pays, notamment dans la périphérie sud, ça marche pas très bien la zone euro. Après, une cinquième solution pour réparer cette union, mettre fin à l'austérité. L'auteur qualifie les coupes budgétaires dans les services publics, par exemple, comme une catastrophe. Et enfin, le dernier conseil de Fintan O'Toole du Irish Times pour sauver l'Union, plus de démocratie et plus de transparence dans le fonctionnement de l'UE. Pourquoi pas, par exemple, diffuser en direct des réunions des conseils européens ou pourquoi pas rendre public les discussions sur les échanges commerciaux. Et là, il fait une référence au TTIP dont les négociations ne sont pas vraiment transparentes. Selon lui, l'Union européenne aurait donc encore un bel avenir devant elle, mais il faut en tout cas tirer les bonnes leçons du Brexit et réformer l'Union européenne.
Merci Judith, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. On retiendra la vision très personnelle du chroniqueur de l'Irish Times, car il n'est pas sûr que la sortie de l'euro soit forcément une bonne idée, même si on ne sait pas s'il parle d'un abandon de l'euro en général ou de la sortie de l'Irlande de la monnaie européenne. Il y a quelque chose qu'il n'a pas vraiment évoqué, mais c'était peut-être sous-entendu, Christian Lequen, c'est que pour les Irlandais, la notion de frontière est très importante. Quel sera l'avenir de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, c'est-à-dire Dublin, après le Brexit? C'est évidemment une question importante qu'on n'a pas évoquée dans la première partie, c'est-à-dire le fait que les Irlandais du Nord ont voté contre le Brexit, absolument, comme les Écossais d'ailleurs.
Oui, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est celle-ci. Effectivement, l'Ulster a voté majoritairement pour rester dans l'Union européenne, parce qu'on n'a absolument pas envie en Irlande du Nord que la frontière avec la République d'Irlande, d'Irlande du Sud, devienne une barrière, ça certainement. Puis il y a une deuxième raison, je pense que dans le processus de paix, même si celui-ci a été plutôt bilatéral entre l'Ulster et le gouvernement britannique, l'Europe était quand même derrière. Elle a toujours favorisé par des aides, elle a été un facteur
d'unification.
Exactement, exactement. Et ça, je crois que c'est marqué dans la mémoire
et dans l'inconscient collectif des Irlandais qui soient au nord au sud.
Du nord
d'abord.
D'abord, bien sûr, puisque c'est eux qui ont été concernés pendant 30 ans par la violence.
Alors évidemment, un autre point d'interrogation, que deviendra la frontière entre l'Irlande et du Nord et l'Irlande, c'est évidemment une des conséquences du Brexit. Jean-Sébastien Lefebvre, pour l'Union européenne, quel est l'enjeu principal du Brexit? Quelles seraient un peu les conséquences d'un divorce à l'amiable et d'un divorce conflictuel?
Alors le premier enjeu, c'est pour les Européens montrer qu'ils sont unis. C'est ce qu'ils ont voulu faire en montrant à Bratislava, donc c'était le dernier sommet à 27, aussi le premier grand sommet à 27 qui a eu lieu le 16 septembre dans la capitale slovaque, c'est montrer qu'ils sont unis et qu'ils ont des projets pour l'avenir. Ça veut dire que, d'accord, le Royaume-Uni va partir, mais nous on va continuer, on va faire des choses. Donc dans les cartons, il y a cette idée d'Europe de la défense, il y a cette idée d'Europe de la culture et de relance économique aussi. Mais aussi, en même temps, on voit en coulisses que c'est pas forcément les mêmes projets qu'on a entre eux. Un Viktor Orban qui fait une bonne partie de sa campagne, de sa vie politique sur le dos des migrants, c'est pas du tout la même chose qu'une Angela Merkel ou un François Hollande. Donc l'enjeu, c'est voilà, d'arriver à serrer les rangs et de définir les projets pour les 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, avoir une perspective justement.
Alors c'est vrai que c'est sur lequel que jusqu'alors les Européens se sont montrés fermes et unis. Les 27 ont le même discours.
Oui, parce que les négociations d'adhésion n'ont pas commencé encore.
C'est évidemment plus facile.
Ouais, exactement. Alors le jour où les négociations auront commencé et que on aura sur la table un certain nombre de propositions, notamment si la Grande-Bretagne demande un accord ad hoc, là, il faudra que les Européens, les 27, restent unis. Imaginez que quelques grands États acceptent une forme de dérogation à la libre circulation des personnes. Bon, là, c'est à mon avis un facteur de conflit.
Alors un accord ad hoc, pour bien qu'on comprenne, ce serait pour les Britanniques garder un accès plus ou moins complet au marché unique, et de préférence le plus complet possible, en échange finalement d'un arrangement à minima sur la libre circulation des personnes, quelque chose comme ça.
Oui, ainsi que sur le processus de décision et vraisemblablement sur la contribution budgétaire. Voilà. Je crois la diplomatie britannique, qui est excellente, qui est très professionnelle,
qui est redoutable,
tout à fait capable de commencer sur une position qui soit une position un peu maximaliste comme celle-ci. La question, c'est pour les 27 de rester suffisamment unis pour accepter un compromis qui ne remette pas en cause quand même les principes essentiel du marché intérieur. Et pour moi, la libre circulation des personnes, franchement, ça n'est pas négociable.
En tout cas, pour Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui était il y a quelques jours à Paris à l'occasion des 20 ans de l'Institut Jacques Delors, eh bien, c'est très clair, on est soit dedans ou dehors l'Union européenne.
Il doit être évident que si le Royaume-Uni veut avoir un libre accès au marché intérieur, que toutes les règles et que toutes les libertés qui entourent le marché intérieur soient intégralement respectées. On ne peut pas être un pied dehors et un pied dedans. En écrasant du pied qui est dehors l'ensemble qui a été mis en place et en marchant comme sur des roulettes pour récolter les fruits de ce qui doit fonctionner également pour le Royaume-Uni. Sur ce point, nous devons être, je le dis aujourd'hui, intransigeants. Si nous commençons à détricoter le marché intérieur en mettant à la libre disposition de l'arbitre et du bon vouloir d'un État qui a décidé de quitter, nous inaugurerons la fin de l'Europe, de ses principes directeurs et de tout ce qui fait la noblesse et finalement les succès de l'Europe.
Alors Jean-Sébastien Lefebvre, quand vous écoutez Jean-Claude Juncker, il y a beaucoup de fermeté, hein. C'est très clair, ne pas avoir les avantages d'une adhésion sans en avoir les contraintes. Il y a de la fermeté dans les propos. On est tous sur cette même ligne à Bruxelles en ce moment ?
Alors à Bruxelles, oui, la Commission européenne est sur cette ligne et elle rejoint la France. La France, depuis le début, a une ligne très ferme en disant il n'est pas question de négocier les grands principes. De la part d'Angela Merkel, au mois de juin, on sentait un petit peu d'hésitation. Les relations entre le Royaume-Uni et l'Allemagne sont très fortes au point de vue commercial et aussi il n'y a pas cette vieille rivalité qu'ont les Français avec les Britanniques. Et Merkel a toujours apprécié avoir David Cameron auprès d'elle. Ça évite le tête-à-tête avec François Hollande. Mais sauf qu'on a eu un dîner qui a été organisé début octobre à Berlin, où François Hollande était là, ainsi qu'Angela Merkel et M. Juncker. Et il semblerait qu'après les déclarations de May, ils se soient mis d'accord sur l'idée que l'important ne sera pas l'économie, mais la politique en premier. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de sauver les meubles sur quelques points commerciaux pour faire plaisir aux Britanniques. C'est il faut marquer le coup. Il faut que les Britanniques comprennent que ce n'est pas possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, on voit chez les grands pays que ça commence à s'aligner. Après, la question, c'est les plus petits, peut-être. Les Pays-Bas sont réputés très anglophiles. Ils ont des relations commerciales très fortes. Est-ce qu'ils vont tenir cette ligne? Et après, l'Europe de l'Est, effectivement, les Polonais qui ont 1 million de personnes quasiment au Royaume-Uni, est-ce qu'ils vont pas être prêts à des concessions pour conserver certains droits aux Polonais en échange d'avantages commerciaux? La question est encore ouverte et on le verra, en fait. Après l'activation de l'article 50, les chefs d'État et de gouvernement vont devoir donner un mandat de négociation, probablement à la Commission européenne. Et donc dans la foulée, on estime le temps nécessaire entre 1 mois et 2 mois, il y a un mandat qui va être rédigé. Donc c'est là qu'on verra les divergences possibles et les points forts de l'Union européenne, des 27 restants.
C'est Michel Barnier qui sera porteur de ce mandat, hein, Jean-Sébastien Lefebvre.
Normalement, tout le monde pense que ce sera lui, même s'il n'est pas encore désigné officiellement par les chefs d'État pour cette mission. Mais dans la pratique, seule la Commission européenne à Bruxelles a les effectifs en termes de fonctionnaires, d'experts pour pouvoir mener la négociation. Ce qui est fort probable, c'est qu'en parallèle, le Conseil européen utilise son administration pour suivre de très très près ce qui va se faire. C'est-à-dire que ça ne va pas être un peu comme les accords commerciaux, un peu comme le TTIP avec les États-Unis ou le CETA avec le Canada. Il y a un mandat qui est donné à la Commission et puis elle a une certaine marge de manœuvre. On ne suit pas ce qu'elle fait au jour le jour. Là, il est probable que les États, vu les enjeux, soient vraiment dans un suivi très 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 rapproché des négociations.
Christian Lequen, dans ce que vient de dire Jean-Sébastien Lefebvre de contexte.com à Bruxelles, c'est que évidemment il y a une dimension économique à cette négociation qui va se mettre en place à partir de mars 2019, mais aussi une dimension politique. Et peut-être que le principal risque pour l'Union européenne, c'est la contagion, c'est-à-dire d'avoir une adhésion à la carte, que chacun réclame une adhésion à la carte si on donne un petit quelque chose qui fasse plaisir aux Britanniques.
Oui, effectivement, cette tentation risque de se manifester dans un certain nombre de pays. Je pense, par exemple, aux Pays-Bas, si les élections du mois de mars prochain permettent au parti de Monsieur Wilders, le PVV, de faire un beau score. Mais il y a quand même une autre dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est précisément les calendriers électoraux. Nous serons fin mars à 2 mois de l'échéance présidentielle en France et nous serons à 6 mois des élections au Bundestag. Et moi, je crois que rien de sérieux ne pourra se passer avant que nous ayons un nouveau président en français et une nouvelle chancelière ou un nouveau chancelier. En Allemagne. Voilà. Donc, cette date de la fin mars, elle doit être immédiatement relativisée.
Mais le principal risque pour l'Union, quel est-il pour vous? Qu'on perde tout contact avec le Royaume-Uni et que le Royaume-Uni soit finalement un État tiers, ou qu'au contraire, en donnant un petit quelque chose aux Britanniques, il y a finalement ce risque de contagion?
Pour moi, le risque est que l'on donne justement ce petit quelque chose sur une base purement ad hoc, sans réfléchir par ailleurs à la réforme de l'Union européenne, car on sent que ce Brexit peut être aussi un moment de vérité pour l'Union européenne. Et je crois que après les élections allemandes et les élections françaises, ça serait pas mal de remettre sur la table le projet politique et penser à un système. Enfin, moi, personnellement, je suis favorable à un système à deux cercles où il y aurait d'un côté l'Europe du grand marché, qui pourrait d'ailleurs être incarné par l'espace économique européen, et puis de l'autre, l'Union européenne qui correspondrait aux membres de l'Union économique et monétaire. Quand je dis les membres, c'est ceux qui appliquent actuellement l'euro ou qui ont vocation à l'appliquer, si on prend la République tchèque par exemple ou la Pologne.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, et si le Brexit était une chance finalement pour l'Europe? Nous sommes avec Christian Lequen, professeur à Sciences Po Paris, avec Jean-Sébastien Lefebvre, correspondant à Bruxelles du site très européen contexte.com, et avec Muriel Delcroix, correspondante de RFI au Royaume-Uni. Alors justement, Christian Lequen, vous venez d'aborder un peu, et si ce Brexit c'était le moment de repenser l'Europe, si c'était le 23 juin finalement, c'était un choc bénéfique pour l'Union européenne, vous y croyez quand même tout de même un petit peu.
J'espère en tout cas, parce que une chose est certaine, c'est que actuellement, lorsqu'on parle de l'Union européenne, on a beaucoup de mal à légitimer ce projet en se projetant dans l'avenir. Qu'est-ce que l'on dit quand on parle de l'Union européenne? C'est un formidable acquis, ça a évité la guerre, autant de choses justes, ça a permis aux États de profiter de la croissance et de bénéfices économiques. Voilà, les jeunes de 20-25 ans, ils vous demandent immédiatement, mais l'avenir, quid? Et c'est ça la grande question. Est-ce que on est encore capable dans l'Europe des 27 de mettre sur la table un projet qui soit un peu tourné vers l'avenir, ou alors est-ce qu'on assume complètement le fait qu'on a atteint un certain plateau, un statu quo, et on gère aussi bien que possible les acquis?
Jean-Sébastien Lefebvre à Bruxelles, que dit-on de cette réflexion? Est-ce que finalement le Brexit c'est pas le moment de se prendre en charge, de se dépasser soi-même et de positiver ce qui a été annoncé un peu comme une catastrophe? Parce que nous l'oublions pas, personne n'était favorable parmi les au sein des 28 capitales à un Brexit, un départ des Britanniques, enfin les 28, en tout cas les 27, chacun disait que ça allait être plutôt une contre-performance pour l'Union européenne. Qu'en est-il à Bruxelles? Est-ce que finalement on se dit à Bruxelles, c'est le moment d'aller au-delà, de repenser l'Europe?
Alors il y a ça, quand vous discutez avec des gens de la Commission européenne, des gens qui sont dans les cabinets, ils se disent c'est le moment d'inventer des nouvelles choses, de proposer de nouvelles choses. En même temps, politiquement c'est compliqué parce que la Commission européenne sort relativement affaiblie, voire très affaiblie, du Brexit. Jean-Claude Juncker a été mis en cause par les États d'Europe de l'Est comme un des responsables du Brexit, parce qu'il n'a pas été capable de gérer correctement la crise des réfugiés, et aussi parce que pour relancer l'Union européenne, ceux qui ont le capital, la légitimité pour le faire, ce sont avant tout les capitales finalement. L'Europe de la défense, la Commission européenne peut faire assez peu de choses sans l'aval de Paris, de Berlin.
C'est-à-dire en gros du Conseil européen.
Exactement. Et ce qu'on a assisté à Bratislava, donc le 16 septembre dernier, c'est que les 27 ont dit à la Commission, écoute, nous, on va s'occuper de la relance, et toi, après, en gros, tu seras chargé de la mise en œuvre. Il y a vraiment eu une reprise en main par les États. Alors, ils savent pas ce qu'ils veulent faire entre eux, mais en tout cas ils veulent que ce soit eux qui le fassent. Et c'est aussi, alors François Hollande est plus mesuré dans ses propos, mais quand vous écoutez les Polonais ou les Hongrois, c'est clairement le moment pour reprendre le pouvoir sur Bruxelles. Donc à Bruxelles c'est assez mitigé, on a une opportunité pour faire quelque chose, mais en même temps, on fait tout pour nous empêcher, et en plus, on n'a pas vraiment les moyens de le faire.
Contradiction majeure, Christian Lequen, est-ce qu'on peut relancer l'Europe à travers le Conseil européen, c'est-à-dire les nations?
Oui, je pense tout d'abord que ça a toujours été le cas. Même si on prend la période que l'on cite souvent en France de la présidence de Jacques Delors, si Jacques Delors, entre 1985 et 1995, a été en mesure de faire toutes les propositions qu'il a faites, c'est tout simplement parce qu'il bénéficiait du soutien du Conseil européen, et notamment de Mitterrand et Kohl à l'époque. Je pense que la Commission européenne n'a jamais pu agir seule, en quelque sorte. C'était peut-être le rêve des pères fondateurs, de Jean Monnet lorsqu'il a conçu dans les années 50 la haute autorité, et puis ensuite de Walter Hallstein, le premier président de la Commission dans les années 60. Mais en fait, ça ne s'est jamais passé comme cela. Simplement, là où je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que les États membres ont accepté plus ou moins de faire des délégations à la Commission. Or, actuellement, c'est précisément ce qu'ils ne font plus. Ils sont très crispés parce qu'ils pensent qu'ils ont au quotidien des comptes à rendre à leurs opinions publiques, et que l'intergouvernemental, c'est un moyen en quelque sorte d'assurer le contrôle et de dire à l'opinion publique, voilà, nous avons les affaires en main. Et ceci est vrai aussi pour un pays comme l'Allemagne. Si vous prenez la politique européenne de l'Allemagne sur le temps long, il y a depuis 5 à 10 ans beaucoup plus de légitimité en faveur de la méthode intergouvernementale chez les Allemands qu'il n'y en avait dans le passé. Donc c'est un phénomène effectivement général.
Jean-Sébastien Lefebvre, dans les couloirs des institutions bruxelloises, on dit on pourrait repenser l'Europe. On pense qu'il faut réagir dans quelle direction, par exemple ?
Alors il y a déjà des plans qui sont dans les cartons depuis un petit moment, en particulier au sujet de la zone euro. En fait, la question qu'on se pose, c'est aujourd'hui le cœur de l'intégration européenne, est-ce que ce ne serait pas finalement les pays disposant de la monnaie unique ? Alors il y a un rapport des cinq présidents qui a été fait en juin 2015.
Alors il faut rappeler un peu qui sont les cinq présidents, le président du Conseil, le président de la Commission, le président du Parlement, le président de la BCE et puis le président de l'Eurogroupe, hein, c'est ça, je crois que j'ai oublié
c'est
personne.
Exactement, alors il est passé complètement inaperçu parce qu'il est sorti en pleine crise grecque de 2015. Et là justement, dedans il y a des pistes qui vont être un petit peu étayées à l'hiver prochain, donc janvier-février 2017. On nous promet un petit peu un livre blanc sur ce qu'il faudrait faire. On parle depuis très longtemps d'un budget de la zone euro pour permettre d'absorber les chocs asymétriques. Éventuellement, s'il y a un budget, ça veut dire qu'il faut aussi un parlement de la zone euro. Donc est-ce que vous utilisez le parlement actuel en prenant que les députés des pays de la zone euro, est-ce que vous en faites un autre? Il y a plein de réflexions, mais pour l'instant en fait on est encore un peu dans l'expectative. On voit pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir, on voit pas trop où est-ce qu'on va atterrir. On nous a promis en fait une période qui va donc de septembre dernier à Bratislava jusqu'au 60 ans du traité de Rome, prévu en mars 2017. À Rome, justement, il y aura un sommet avec les chefs d'État et de gouvernement. Et ce qui devait être au départ un anniversaire, une cérémonie, va se transformer très probablement en événement politique où des orientations seront prises.
Alors mars 2017, on peut rappeler que c'est le moment où Theresa May activera le fameux article 50. Est-ce qu'on peut déjà avoir une petite idée, Christian Lequen, sur l'impact que va avoir le départ du Royaume-Uni sur la réflexion de la marge de l'Europe? Les Britanniques étaient les plus libéraux. On peut rappeler quand même que c'est eux qui ont accueilli à bras ouverts ce million de Polonais qui leur pose tant de problèmes quelques années plus tard. Sur le côté très libéral, grand marché, élargissement à l'infini, on peut imaginer quel va être l'impact de cette absence des Britanniques et donc de cette dimension très libérale.
Il y a des contradictions parce que si on prend les Polonais et l'actuel gouvernement donc, du PiS, droit et justice, c'est vrai que les conservateurs britanniques avec leur politique souverainiste ont été un modèle pour Kaczynski et les militants du parti. Même chose pour les néolibéraux tchèques du parti Václav Klaus, du parti ODS. En même temps, 900 000 ou 800 000 Polonais en Grande-Bretagne, je vois mal un Premier ministre PiS ne pas défendre les droits des Polonais qui travaillent en... Exactement. Donc ça va les mettre dans des contradictions. C'est-à-dire que d'un côté, quand on parle de choses très abstraites comme le rapport à la souveraineté, etc., c'est vrai qu'il y a eu une séduction des eurosceptiques britanniques sur les libéraux et les conservateurs d'Europe centrale et orientale. Et en même temps, dans les politiques concrètes, ça va aller contre les intérêts, parfois le Brexit, des pays d'Europe centrale. Donc ça sera compliqué. À mon avis, la France et l'Allemagne auraient intérêt d'ailleurs, dès maintenant, de faire alliance avec les pays d'Europe centrale sur la question de la libre circulation des personnes.
Mais par exemple, tout ce qui est Europe fiscale, Europe plus ou moins sociale, tout ça c'était des positions qui effrayaient toujours, une politique qui effrayait les Britanniques. Ils ne seront plus là. Quel impact ça peut avoir ?
C'est vrai que ça peut avoir un impact sur les pays libéraux du Nord, y compris les Allemands qui, dans le fond, aimaient bien cette cette présence britannique parce que ça leur permettait d'affirmer des principes libéraux sur le plan économique. Dans les pays d'Europe centrale, c'est plus compliqué parce que si vous prenez le PiS, par exemple, en Pologne, ça n'est pas l'idéologie néolibérale, le PiS. Au contraire, c'est la protection de l'État-providence, politique sociale, etc. Très différent des libéraux tchèques qui, eux, sont vraiment encore des néolibéraux au sens classique du terme.
On sent bien que les Polonais seront au cœur de toutes les contradictions.
Les Polonais seront au cœur des contradictions et ça sera très difficile pour le gouvernement actuel d'avoir une vision claire et une communication claire à l'égard de son opinion.
Jean-Sébastien Lefebvre, comment imaginer la refondation de l'Europe? Christian Le Cun évoquait une refondation à partir de l'euro. On sent bien qu'il y a une multitude de cercles. Les pays membres de l'euro, les pays fondateurs, les pays, le groupe de Visegrad, les pays du Sud, même s'ils sont moins organisés, Espagne, Italie, Grèce, etc. Une multitude de cercles qui sont en train de se former, qui existent ou qui sont en train de se former en Europe. Est-ce que la refondation de l'Europe passe un peu par tous ces cercles et quel sera le plus important, l'euro, les pays fondateurs qui sont en mesure de refonder, de relancer l'Europe?
Mais justement, dans ce qu'on voit par exemple dans le projet de la défense, c'est qu'en fait on risque sûrement de rajouter un cercle. Il est probable que tous les pays ne fassent pas l'Europe de la défense, mais que certains décident de le faire via une coopération renforcée, donc il en faut au moins une dizaine. Donc en fait cette refondation, ça va être juste probablement accentuer la différenciation. Alors, toujours avec cette idée de noyau central. Alors, noyau central, ça sera les fondateurs qui seront dedans, mais en plus, il y aura cette dimension zone euro. Parce que la zone euro est, on va dire, le chantier qui nécessite le plus de transformation, de réforme. Récemment, je parlais avec Herman Van Rompuy, l'ancien président du Conseil européen, le premier, qui disait qu'on a fait beaucoup de progrès dans la zone euro, mais que la prochaine crise, quand elle arrivera, à ce moment-là, il nous manquera encore des outils pour y faire face. Donc, il me paraît probable que le chantier prioritaire devrait être la zone euro.
Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été au carrefour de l'Europe, Christian Le Cun, Jean-Sébastien Lefebvre et Muriel Delcroix. Réalisation de cette émission, Boris Vicic, et pour réécouter ce carrefour de l'Europe et en savoir un peu plus sur nos invités, RFI.fr, rubrique émission, ou tapez carrefour de l'Europe sur votre moteur de recherche préféré, sans oublier, c'est très pratique, les applis mobiles et gratuites de RFI. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Lesesquel, où que vous soyez, en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Appelez-nous.